Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, de la politique intérieure aux événements internationaux, du syndicalisme aux manipulations génétiques, de la police au terrorisme, le droit est partout dans notre quotidien. C'est en tout cas le constat qui ressort de la lecture de l'ouvrage de mon invité d'aujourd'hui, M. François Théré, qui a tenu durant 30 années une chronique juridique dans les pages du journal Le Figaro. Monsieur Théré, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes professeur émérite à l'université Panthéon-Assas à Paris, auteur de nombreux ouvrages de droit, de sociologie, de philosophie, membre de l'Académie des sciences morales et politiques où vous siégez dans la section législation, droit public et jurisprudence depuis 1995. Alors ma première question en rapport avec ce que je disais à l'instant, observez-vous une présence grandissante du droit dans les différents secteurs de la société ?
C'est certain. Il me semble que c'est une des dominantes de notre société, de notre civilisation européenne et française, encore plus peut-être que dans d'autres pays, car il y a, comme l'a dit un auteur, une espèce de passion véritablement du droit dans la société française et excès de passion même, tendant à vouloir mettre du droit un peu dans tous les domaines de la vie quotidienne. Une passion d'ailleurs qui a son prolongement dans le phénomène judiciaire, et qui illustre encore plus peut-être que, hors des procès, cette présence, cette omniprésence du droit dans notre société post-industrielle ou post-moderne, comme on dit maintenant.
Alors, dans l'introduction de cet ouvrage dont j'annonce le titre, « Le juriste et le politique, 30 ans de journalisme au Figaro » paru aux éditions Dalloz, vous rappelez une anecdote assez amusante, c'est que Raymond Aron écrit dans ses mémoires que son échec à sa candidature à la Sorbonne tenait à sa participation au Figaro et qu'il s'est entendu dire: ce que vous faites est honorable, mais le journalisme n'est pas convenable pour un professeur d'université. On était en 1948, vous avez vous-même été professeur d'université et journaliste d'une certaine façon. Est-ce que les mentalités ont évolué ?
Je le pense. Les propos en question, d'ailleurs, n'étaient pas, sur le fond, partagés par tous. C'était une manifestation de pensée de certains professeurs à la Sorbonne qui probablement étaient quand même d'une autre époque.
Oui.
Et aujourd'hui, on entendrait encore moins cela de la part des professeurs éminents de la Sorbonne.
Aujourd'hui, je crois, il y a d'ailleurs beaucoup de professeurs de Sorbonne qui s'expriment dans les colonnes des journaux en général, des quotidiens ou des magazines.
Il y a un certain nombre de professeurs qui sont membres de notre académie et qui sont des universitaires éminents. Je crois qu'il y avait peut-être aussi, il y a toujours aussi chez ceux qui critiquent le journalisme de leurs collègues, le regret de ne pas avoir accès forcément aux médias aussi facilement qu'eux.
Voilà, c'est pour ça qu'ils s'en plaignent un peu.
Mais oui.
Donc vous faites, quand vous êtes journaliste, chroniqueur au Figaro, vous faites une œuvre de vulgarisation du droit. Est-ce que vous considérez-vous que c'est un exercice nécessaire, un exercice, j'allais dire même indispensable pour un professeur qui doit à la fois enseigner à des étudiants, mais aussi partager ses connaissances avec des profanes ?
Oui, je crois d'ailleurs, vous dites les profanes, justement, à la fin de votre question, c'est que le mot de vulgarisation a pris une connotation désobligeante ou discourtoise. Mais en réalité, c'est faux. L'idée de vulgarisation peut être conçue dans un bon sens, c'est le bon sens du mot. Et à notre époque de curiosité juridique bien plus grande dans le monde des profanes, il est tout à fait naturel que ceux qui sont le mieux à même d'enseigner et donc de communiquer le savoir se plient aux exigences du journalisme. Alors, lorsqu'il s'agit du droit, ce n'est pas une denrée journalistiquement très comestible. Il est bien certain que la difficulté qu'il y a peut comporter des efforts beaucoup plus importants qu'on le pense quand on est profane, de nécessiter d'efforts pour surmonter ses habitudes langagières. Et cela est indispensable. Je pense que c'est la mission de l'université de transmettre le savoir à des populations de plus en plus avides de défendre leurs droits.
Peut-être aussi est-ce la mission des membres de l'Académie des sciences morales et politiques qui doivent aussi aider à la transmission des savoirs.
Oui.
La presse, d'une certaine façon, d'une manière générale, pas seulement pour le droit, mais d'une manière générale, considérez-vous qu'elle... qu'elle contribue à cette transmission des savoirs ?
Elle y contribue, à l'évidence, mais il y a un certain nombre d'obstacles qui se manifestent dans la communication du savoir juridique. Premier obstacle, le fait que pour attirer le lecteur, on met toujours l'accent sur les difficultés du droit et sur le fait que certaines affaires tournent mal, que la justice ne fonctionne pas bien. L'affaire Doutreau en est un exemple évident et que le journalisme a peut-être tendance, le journaliste a peut-être tendance à amplifier, à braquer le projecteur sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va. Et puis, il y a aussi autre chose, la vision du droit est déformée par le fait que les Français, quand ils lisent la presse, quand ils écoutent la radio, sont toujours attirés par l'affaire pénale, par le droit pénal. Oui. Comme si, pour beaucoup de Français, le tribunal, c'est l'endroit où on se fait condamner les voleurs et les avocats mal vus parce qu'ils défendent n'importe quelle cause, mais des assassins, etc. Il est certain que par rapport à l'ensemble du fonctionnement du droit, de tout ce qui ne donne pas lieu à procès, et deuxièmement, de ce qui donne lieu à des procès mais pas au pénal, l'affaire pénale ne représente pas du tout l'ampleur qu'elle a dans l'opinion.
Absolument. Avant que François Théret, nous puissions parcourir ensemble le contenu de votre ouvrage, j'aimerais que vous me disiez un petit mot de la manière dont ces chroniques au Figaro vous ont été commandées. Vous dédiez votre ouvrage à Max Clot, que j'ai moi-même bien connu, ayant aussi été au Figaro. Donc, quel était ce personnage ? Est-ce lui qui vous a incité faire ces chroniques ?
Oui, c'est pas lui en premier lieu. Il n'est intervenu comme patron, un grand patron du Figaro, qu'un peu plus tard. Mais c'est au fond dans les années 70-75 que j'avais été appelé à donner mon avis sur des problèmes techniques particuliers. Il y avait trois problèmes juridiques qui intéressaient les journalistes du Figaro, hormis le droit pénal. Alors c'était les internements arbitraires, c'était la situation des enfants illégitimes, et puis c'était relativement le divorce. Hors de cela, tout le droit n'intéressait pas. Et alors, des réponses, finalement, à la longue, après quelques essais, c'était plutôt Michel Bassi qui dirigeait à un moment éphémère le Figaro, qui m'avait dit qu'on pourrait mettre au point une collaboration d'un certain nombre de journaux.
C'était nouveau à l'époque.
Oui, tout à fait nouveau.
Les autres journaux n'avaient pas de chronique judiciaire, juridique.
N'avaient pas de chronique juridique. Ils avaient quand même des tranches de cours de l'Institut d'études politiques ou des facultés qui étaient déversées dans le journal Le Monde, mais personne ne lisait. Et d'autres, on s'en servait pour constituer des dossiers. Mais l'universitaire, dans cette mesure, ne changeait pas de peau d'universitaire. Tandis que avec cette entreprise, et surtout, alors là, après, avec la férule de Max Clot, ça a été tout à fait différent, car il nous a demandé de nous transformer davantage. Nous avons fait un apprentissage de journaliste. Et je me souviens que le fait de passer une question de droit, une réponse de droit, dans un article de 3 feuillets de 25 lignes,
c'est très difficile.
60 lignes à la ligne, c'est, première
très
étape, 3 jours.
Oui, oui.
Deuxième étape, 2 jours. Troisième étape, 1 jour, au bout de 10 ans. Et puis, enfin, une matinée. Mais on ne pouvait pas faire moins. Et c'était une épreuve intellectuelle
et
physiquement fatigante.
C'est un exercice, oui, certainement.
Mais avec l'idée qu'il fallait avoir la démarche inverse de celle d'un universitaire.
Étiez-vous heureux de faire cet exercice ?
Ça m'amusait beaucoup.
Ça vous amusait beaucoup.
Ça m'amusait beaucoup.
Regardez-vous un très bon souvenir. 30 ans, même, c'est long.
Et oui, au bout de 30 ans, si Max Clot avait été resté aux commandes, j'aurais continué. Il n'est pas exclu qu'un jour ou l'autre, je retourne dans le circuit. Le climat a changé. Et au fond, l'idée fondamentale, c'était de mettre le droit, pas seulement par des services SVP ou autres consolatrices des ondes, enfin Mini Grégoire et autres, de mettre le droit à la portée véritable du destinataire. C'était important et on voyait bien après l'écho qu'on en avait. je constate que cet effort, cette entreprise qui avait parfaitement réussi, est en voie de régression complète au Figaro.
Constat un peu triste. Alors au fil des pages...
Tant pis, on reviendra. Parce que du coup, après le Figaro, je me suis dit, je vais aller voir ailleurs.
Bon.
Et j'ai écrit à Libération.
Ah ben, ça changeait de côté.
Pour montrer, oui, mes collègues ne comprenaient pas très bien. Ils disaient, mais comment, on t'avait catalogué et maintenant tu écris en Libération. Mais je dis, mais j'ai horreur qu'on mette des étiquettes. Voilà. Pour moi, j'ai pu écrire à Libération des articles qui m'ont été, dans l'époque actuelle, refusés par Le Monde et par Le Figaro.
Aussi librement, vous étiez libre d'écrire ce que vous souhaitiez, au Figaro, naturellement, au Figaro et à Libération aussi, par exemple.
Non.
Non, Libération, c'était plus...
On dit
page
rebond, mais voilà. Doucement. Au Figaro, oui, parfois, il y a eu un ou deux articles... On ne m'a jamais censuré.
Oui.
Jamais. Simplement, il y a eu un ou deux articles qui semblaient moins plaire. Alors, on les fait paraître le jeudi de l'Ascension, ou le lundi de Pentecôte. Quoi. C'est classique,
astuce,
j'ai compris.
Astuce classique, voilà. Alors, avec François Théré, nous feuilletons au fil des pages Le juriste et le politique, paru aux éditions Dalloz. Ces chroniques du Figaro ne sont pas classées par ordre chronologique, ce qui leur aurait sans doute enlevé un intérêt, mais elles sont classées par thèmes, et vous les avez groupés autour de quatre thèmes, les libertés, la démocratie, la constitution et le droit international. À propos des libertés, vous avez une conclusion qui m'a surprise. Vous dites « les libertés ont avancé dans les discours, mais elles ont reculé dans les faits ».
Oui.
Vous pensez, vous défendez cette...
Je pense que le droit, les libertés ont reculé. Plus on en parle, plus elles reculent. Je pense même que le discours international sur la pensée humanitaire, les libertés, n'a été pour rien dans l'ébranlement et l'écroulement du système soviétique, que d'autre part, le progrès des démocraties par le monde n'a pas été tellement évident, et que de toute façon, là où il s'est produit, il ne s'est pas produit comme on le pensait. Alors, je crois qu'il y a, dans le discours sur les libertés, dans le monde, un certain néocolonialisme, je vais loin dans le discours, mais je voudrais vous dire que je constate le recul des libertés en France.
Oui.
Je le constate en matière de liberté de l'écriture historique. Le fait que des lois...
Il y a du correct et du non-correct. Oui.
Du correct et du non-correct. Que des lois interdisent, sous peine de sanctions pénales, de remettre en cause tel ou tel élément historique, même de l'époque horrible du nazisme, c'est une atteinte à la liberté de l'historien. Je considère que même l'impossibilité d'émettre des opinions qui pourraient être formulées sous une allure sexiste ou raciste ou xénophobe, tout cela porte atteinte à la liberté de penser. Et d'ailleurs, moi je me dis que maintenant, est-ce qu'on va pouvoir, à en juger par une loi en gestation, tenir des discours hétérophobes.
Là, il y a un vrai problème.
Ça, c'est un pas de plus. Atteinte à la liberté de la recherche, à l'atteinte à la liberté de penser. On peut dire du mal. Qu'est-ce qu'on peut dire encore comme mal des gens? On ne peut pas dire sale juif. On peut dire sale chrétien, semble-t-il. On ne peut pas dire sale noir. Sale blanc, c'est pas encore impossible. Sale, etc. Non, ce qu'on peut encore dire, c'est sale rouquin. Mais je ne vois pas pourquoi cette liberté continuerait. Il faut absolument, pour l'unité, l'égalité de l'homme et de la femme, égalité des sexes, de l'homme et de l'animal. Je ne vois pas pourquoi sale bête. Non, mais c'est fini. Il faut éviter tout cela. Et c'est la liberté de penser, la liberté de la recherche historique, la liberté d'aller et de venir, la sûreté, toutes les atteintes.
Beaucoup de libertés menacées.
Voilà,
ou diminuées, en tout cas.
Je suis
Alors, sinistre. Pour la démocratie, vous n'êtes guère plus optimiste, puisque vous faites aussi un constat aussi décourageant. La démocratie, on peut noter un déclin de l'institution parlementaire, ce qui est inquiétant, et une puissance grandissante de la bureaucratie.
Je vous remercie
beaucoup
de cette sympathique entretien et interview.
Merci à vous, à une autre fois, j'espère.
Okay.